Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Rome, la ville éternelle comme on l'appelle, on a l'habitude de dire à propos de cette ville que tout projet de travaux, comme celle d'une nouvelle ligne de métro, prend plusieurs années, voire plusieurs décennies, tant le sol de cette ville est riche de multiples couches, comme autant de traces de différentes périodes de l'histoire. Et s'il en était de même de Toulouse et de son histoire chrétienne, ainsi c'est une page de cette histoire que je vous propose de voir ensemble ce matin, celle de la communauté italienne de Toulouse, une communauté encore forte de plusieurs milliers de fidèles, et qui fut un temps un modèle de foi et de générosité, tant dans la ville rose que dans le sud-ouest, une communauté haute en couleurs. Voyage au pays de Don Camillo. Coup de projecteur sur la mission italienne de Toulouse, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, émission toulousaine, mais certainement que les auditeurs qui sont un peu partout dans la région apprécieront de mieux connaître la communauté italienne. Et les Italiens, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup dans le sud-ouest, autour du plateau. Alors il n'y a que des hommes, je ne sais pas si c'est un trait de la culture italienne, vous nous direz messieurs. Mario Daminato, vous êtes prêtre et responsable de la mission italienne de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, parlez bien près du micro s'il vous plaît. Domenico Zago, vous êtes professeur d'italien à la retraite. Bonjour.
Bonjour, Domenico.
Domenico, pardon. Franck Fogliata, vous êtes responsable de l'association à Bol de Mille. On verra ce que c'est que cette association. Bonjour.
Bonjour.
Et Eric Fabre-Meignier, vous êtes producteur et plus connu de nos auditeurs d'émissions sur Radio Présence, entre autres producteur de chansons de poètes et d'anthologies du rock'n'roll. Et tous, vous êtes membres de l'équipe d'animation pastorale de cette mission catholique. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci à tous d'être venus ce matin pour donc cette tranche d'histoire, comme je le disais, en prenant cette image de Rome. On va commencer quoi par fêter les bons vœux en italien. Domenico Zago, je vous laisse nous dire un petit mot d'italien pour commencer, puisque vous étiez professeur d'italien.
Grazie a tutti i compatrioti o ex compatrioti, porgiamo i migliori auguri di buon anno e di felicità.
Alors là, on a presque compris. Vous pourriez presque nous rajouter, allez, des vœux spirituels. Dites-nous un petit mot qui nous à propos de la grâce de Noël, tiens, Tony.
Eh bien, la festa di Natale è una bellissima ricorrenza perché è il centro, il nucleo profondo del cristianesimo, il Dio del cielo e della terra che si fa vicino all'uomo prendendo l'umanità di un bambino in un presepio.
Incroyable.
Ecco il senso di Natale.
Alors peut-être est-ce parce que je suis déjà allé en Italie une ou deux fois, mais c'est vrai qu'on comprend quand même beaucoup de choses et ça nous fait déjà chanter en cette matinée. On va commencer par faire un petit peu d'histoire. Aujourd'hui, donc il y a plusieurs milliers d'Italiens à Toulouse, m'avez-vous dit en préparant l'émission. En tout cas à Toulouse, une communauté d'une bonne dizaine de milliers de personnes. Mais dans le sud-ouest, il fut un temps, vous étiez près de 500 000 Italiens. Et on va parler de cette histoire, l'histoire de, on va dire, de cette migration dans le sud-ouest. Plusieurs vagues, m'avez-vous dit, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 50. Si on s'arrête juste sur la grande période de, comment dire, de cette migration, on commence avec vous, Don Mario Daminato. 500 000 Italiens dans le sud-ouest. N'avez-vous pas un peu exagéré, n'est-ce pas ?
Il y en avait 50 000 à Toulouse, donc une immigration très, très forte parce que la France avait besoin de main-d'œuvre après la guerre de 14 et les Italiens sont venus avec un contrat pour travailler la terre.
Donc ça veut dire qu'il y avait des Italiens un peu partout dans le sud-ouest alors.
Dans tout le sud-ouest.
Tout le monde avait des amis italiens.
Oui, nous sommes nombreux, voilà.
Donc au fort de cette période, vous étiez donc plus de 500 000 donc, dans le sud-ouest. Alors on va commencer par la première vague, c'était donc dans les années 20, vous l'avez dit, après la guerre, beaucoup de paysans français avaient été tués, et donc on a proposé aux Italiens de venir pour faire de la culture. C'est avec vous donc, Domenico Zago, racontez-nous un petit peu cette première vague migratoire.
Eh bien, la première guerre mondiale s'est soldé par une véritable décimation de la paysannerie du sud-ouest. Et dès 1919, les deux gouvernements français et italiens ont signé un pacte, un accord pour avoir en France, la main-d'œuvre nécessaire pour faire marcher les mines de charbon et d'acier de Lorraine, Alsace, de Lorraine, et les campagnes désertées ici dans notre sud-ouest. Et dès 1920,
il y avait plus d'hommes pour travailler la terre, tout simplement.
Les jeunes étaient beaucoup de paysans, jeunes, de fils de famille, et nous avions ici, depuis 2 ou 3 ans, énormément de campagnes abandonnées. Et on a fait appel non pas à des à la paysannerie, surtout qui avait été sinistrée dans la région de la Vénétie, le Frioul et la Vénétie, où il y avait eu la vraie guerre. Là, c'était la guerre 1915-1918. Et nous avons eu une vague, avant le fascisme même, une vague de paysans qui sont venus. Le premier est arrivé par ce pacte payé, voyage payé, il s'appelait Tozzoni, à Castelsarrasin. Il s'était implanté à Castelsarrasin, qui est un centre vraiment de cette paysannerie qui a pris en main toutes ces fermes abandonnées. Et à partir de là, alors ne parlons pas du Gers, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne, hein, Albi et l'Ariège un peu moins.
Alors, deuxième vague, c'est donc pendant la période fasciste, et donc dans l'entre-deux-guerres. Racontez-nous, c'était quoi ? C'était des Italiens qui fuyaient le régime fasciste ?
Alors là, c'est un peu différent. Dès que le fascisme a montré son vrai visage, c'est-à-dire la répression, pas mal, mais moins que les paysans, pas mal d'Italiens formés, intellectuels, plutôt intellectuels, ont fui ce régime d'oppression. Et ils sont venus. Parlons de Silvio Trentin, qui s'est fixé ici à Toulouse. Parlons du président Pertini. Hein? Pertini est venu à Saint-Gaudens. Donc, le président de la République. Bon. Et ces antifascistes se sont parfaitement intégrés ici, vu que le gouvernement français, surtout avec le front, 1935.
Le Front Populaire.
Le Front Populaire, eh bien, était antifasciste. Et donc, ils étaient à leur aise et sont devenus militants. Il y avait quelques institutions, le consulat, la Dante Alighieri, par exemple, de Castelsarrasin, qui faisaient de la propagande politique.
Voilà, y avait
vous
pas
m'avez
de,
compris.
Il n'y avait pas de problème, justement, de, on va dire, politique.
Si, par exemple, la Dante Alighieri de Castelsarrasin était sous surveillance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un président qui était plutôt mussolinien. Bon, voilà, disons le mot. Ça a été fermé, ça s'est fait, dès 1939, la Dante Alighieri de Castelsarrasin. Alors, j'ai retrouvé tous ces documents une fois après la guerre, vers les années 70, lorsqu'on a réouvert la Dante de Castelsarrasin. Voilà. Et la troisième vague, alors, c'est à partir de 1947.
Voilà, donc après la Seconde Guerre.
Voilà, beaucoup. Donc, la Vénétie, le Frioul, étaient de nouveau, pour la deuxième fois, ruinés, parce que la guerre s'était éternisée en Italie du Nord. Ça a été, moi je l'ai vécu, ça a été un véritable désastre. Et la région était de nouveau sinistrée. La seule issue possible pour ces jeunes qui arrivaient à l'âge de travailler, c'était ou d'aller dans les usines Fiat ou de Turin ou de Milan, ou venir cultiver les campagnes. Et ma famille même est venue à Villaudric comme
donc il fallait participer à l'effort aussi de construction de la France. Et bien des Italiens sont venus. Vous dites ça parce que vous aussi, donc on l'a pas précisé, Domenico Zago, vous êtes originaire justement de la province de Trévise en Vénétie. Vous êtes arrivé en France avec votre famille dans les années 50.
52, 54.
Voilà, donc dans les années 50.
En 2 ans, nous avons reconstitué la famille.
Alors cette immigration italienne, elle ne s'est pas faite toute seule. C'est-à-dire qu'en fait, la particularité, c'est qu'il y avait des missionnaires italiens qui étaient envoyés pour accompagner ces communautés. Alors, non pas pour favoriser le communautarisme, mais parce que les Italiens étaient des gens, on espère qu'ils le sont toujours, des communautés très pratiquantes, très pieuses. Racontez-nous un peu cet accompagnement par le clergé.
Oui, donc l'Italie a envoyé des prêtres italiens pour accompagner l'immigration. Donc, il y a eu à Toulouse Don Gallo pendant 10 ans. Je le connais, enfin, il est venu dans ma famille. Donc, et ensuite, en 1939, est arrivé Don Masiello.
Alors, avant de nous donner les différents noms, dites-nous un peu quelle était la logique qui prévalait à ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu très bien se fondre dans la vie chrétienne locale. Pourquoi est-ce qu'on demandait à ce qu'ils soient accompagnés
Parce qu'il fallait donc. C'est une question de langue et de culture. Donc, ils étaient sur le plan religieux, ils étaient très intégrés dans leur pays. Et ensuite, c'était un soutien, c'est un soutien spirituel et un soutien sociologique, en fait social, pour les aider dans toutes les démarches.
Domenico Zago, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, je pense qu'on ne souligne pas assez le rôle, l'importance extraordinaire des missionnaires, de l'effort d'accompagnement de cette émigration massive. En 120 ans, l'Italie a donné 27 millions, statistiques juste, d'émigrants, 27 millions de par le monde, dont 4,5 millions en France. Nous sommes 4,5 millions ressortissants ayant des racines italiennes. Bien. Et l'Église, depuis les Scalabriniens, un ordre d'accompagnement des migrants du siècle de 1880, nom de l'évêque des Scalabriniens, a toujours vraiment investi énormément pour l'accompagnement de ces bateaux entiers, de ces trains entiers des migrants.
Alors
et tous les ans, les missionnaires, alors même en France, nous avions un missionnaire presque dans chaque département. Un à Montauban, un à Agen,
à
Toulouse. Et tous les ans, il y avait deux
ils traînent.
Ils organisaient des trains qui partaient de Bordeaux, plein de à un prix réduit, et il s'arrêtait à Agen, à Marmande, à Montauban, à Toulouse, à Carcassonne et à Narbonne, et il allait jusqu'à Trieste.
Alors, la particularité aussi de cette communauté, je le disais, et ce que j'ai lu un petit peu en regardant quelques pages d'histoire, ce que j'ai pu en trouver, c'est que ça a bousculé aussi la... Alors, on espère aussi que c'est encore le cas, hein, ça a bousculé un peu la population locale, parce que arrivaient des familles, je disais profondément pieux, j'ai retrouvé quelques éléments à l'époque. À cette époque, on se levait tôt pour aller à la messe et on avait jeûné depuis minuit. On allait à la messe avant d'aller à l'école, le soir en sortant des vêpres. Il y avait bien des images pieuses, on faisait bénir les maisons. Il y avait des vocations aussi dans ces familles. Est-ce que ça a été aussi un coup de fouet ? Qu'est-ce qu'on a comme trace un peu coup de fouet religieux à l'arrivée des Italiens, Mario Damiato ?
Don Masiello a eu le souci.
Donc Masiello, c'était donc un de ces prêtres qui accompagnait cette communauté.
Oui, Don Masiello est arrivé à 1939 à Toulouse. Il nous a quittés en 1991. Donc son souci, ça a été aussi, en visitant les familles, de susciter aussi des vocations, et ça a été pour mon cas. Donc il y a une douzaine de prêtres italiens dont Don Masiello a suscité dans leur vocation d'être un jour prêtre. Il nous rendait visite au séminaire, enfin il nous a suivis très bien, ce qui fait que après, donc Lino et moi-même, nous l'avons accompagné à la fin et nous l'avons remplacé.
Alors ma question, c'était davantage, comment c'était pris par la population française ? Est-ce qu'elle était ébahie de voir ces familles et de voir leur piété, Domenico Zago ?
Alors, Don Masiello, j'étais à Villodric, c'est lui, pour la première fois, 3 mois après mon arrivée en France, qui nous a rassemblés dans les églises de Fronton et de Villodric. Tous les 3 mois, il venait avec sa voiture brinque-ballante, il venait même bénir les maisons. C'est le premier contact que j'ai eu, parce que l'administration italienne, le consulat de Toulouse, faisait uniquement les papiers, mais tout le reste, tous les liens avec la communauté italienne étaient faits par Don Masiello. Don Masiello était un faiseur de liens, ne restait pas isolé. Parce que nous avions la barrière de la langue.
Alors,
mon père n'a jamais appris l'italien, le français, pardon. Et donc, c'était lui qui nous permettait par des messes en italien. Il organisait des pèlerinages à Lourdes. J'ai vu la première fois Lourdes en 54. 6 mois après mon arrivée, grâce à Don Masiello.
Donc on a compris que ces prêtres étaient importants. Alors si on s'arrête 2 minutes sur cette figure de Don Masiello, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Mario Damiato ? Vous nous disiez que c'était une sorte d'abbé Pierre au sein de la communauté italienne. Donnez-nous un ou deux exemples qui montrent justement la portée spirituelle et charitable de cet homme.
Je pense à la famille Masada, donc, que j'ai connue, que j'ai accompagnée. C'est une famille qui était de Sardaigne. Le papa est venu travailler en France. Et puis ensuite, il allait un petit peu abandonner son épouse avec les 12 enfants. Don Masiello est intervenu pour que cette épouse avec les enfants arrive en France. Donc, arrivé en France, il fallait trouver un logement. Et c'est lui qui a trouvé un logement en mentant un petit peu, en disant qu'il n'y avait que 5 enfants. Il y en avait 12. mais il a fait un travail, c'est l'abbé Pierre, voilà, je crois qu'on peut un peu le comparer.
Qu'est-ce que vous avez d'autres comme exemple qui disent le rayonnement spirituel
qu'il a eu cet homme ? Il était avec sa soutane, il allait partout, à la préfecture, il allait pour trouver un médecin, trouver un avocat, les portes étaient ouvertes et on l'attendait et on l'accueillait avec beaucoup de plaisir.
Alors il reste une trace de cette communauté italienne à Toulouse, en tout cas une trace, on parlera après de ce qui se fait et ce qui se vit encore au sein de cette mission catholique italienne. C'est une petite chapelle qui s'appelle Notre-Dame de Nazareth, qui est au cœur de Toulouse. Voilà, en tout cas ravissante vue de l'extérieur, je ne suis pas rentré, même si j'ai lu votre description, petit édifice gothique. Pourquoi est-ce que c'est un lieu aussi important pour vous ? Vous espérez qu'elle sera restaurée pour pouvoir peut-être la réutiliser et en refaire un peu le cœur battant de votre mission catholique. Décrivez-nous un peu ce lieu, Domenico Zago, en quelques mots, et pourquoi elle est tant chère au cœur des Italiens de Toulouse.
Notre-Dame de Nazareth est un lieu de mémoire et un lieu d'art. Mémoire parce qu'elle contient et conserve vraiment le cœur de l'action. C'est le centre de l'action de ce qui reste de la mission catholique italienne d'autrefois. Et deuxièmement, parce qu'elle vaut d'être remise en état, parce que du point de vue artistique, acoustique, tout ce que vous voulez, et puis du point de vue situation, elle est au centre, au cœur même, à 30 mètres, 50 mètres des Carmes de Toulouse, eh bien elle mérite d'être remise en état, ne pas être laissée à l'abandon.
Alors qu'est-ce que vous pourriez prendre comme exemple à l'intérieur de cet édifice qui fait que cet édifice est si beau que cela? J'ai vu qu'il y avait une statue de la Vierge qui avait été découverte peut-être, je ne sais pas si c'est miraculeusement, en tout cas qui est lieu d'une objet d'une grande dévotion, et puis il y a quelques autres éléments. Qu'est-ce qui vous touche tant, Elric Fabre-Lemagne, dans cette édifice ?
Fabre-Meigné. Oui, c'est indépendamment du fait que j'ai fait ma communion privée et que mon épouse est d'origine italienne, c'est un lieu qui fait vibrer mon cœur d'artiste, parce que non seulement il y a des tableaux comme ceux de Jean-Pierre Rivals, qui était un grand peintre toulousain du XVIIe siècle, il y a aussi des portraits de Sainte Catherine de Sienne, et ainsi de suite. Et puis il y a un orgue Puget extraordinaire. Cet orgue qui pourrait sans problème être restauré et donner des concerts, par exemple dans le cadre du festival Toulouse les Orgues, qui nous a déjà sollicité. Et puis elle a une acoustique très belle, qui fait chanter la voix, mais aussi qui fait chanter l'esprit. On l'a longtemps ouverte pour les journées du patrimoine, parce que ça appartient au patrimoine non seulement des Italiens, puisqu'on l'a appelé la chapelle des Italiens pendant un siècle, mais aussi au patrimoine de tous les Toulousains.
Allez, on va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver pour continuer à parler de la mission catholique italienne de Toulouse. On vous retrouve dans quelques instants.
A te ogni laude et benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temendo vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore di te Altissimo Signore. Porta il segno, si laudato mio Signore, per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate, chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole in maltempo, che alle tue creature dà un sostentamento. Signore, per sorelle nato per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed è bello, giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, ella è che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male.
Coup de projecteur sur la mission italienne de Toulouse, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Voilà, on voyage un peu dans l'histoire chrétienne de la ville de Toulouse et au-delà du sud-ouest. Autour du plateau, pour nous en parler, pour ceux qui nous rejoindraient, Mario Daminato, prêtre responsable de cette mission italienne, et Domenico Zago, Franck Fogliata et Éric Fabre-Meignier. Tous trois, donc l'un professeur d'italien, l'autre responsable d'une association dont on va parler dans quelques instants, Éric Fabre-Meignier, que vous connaissez, qui est producteur d'émissions sur cette antenne, et tous trois membre de cette équipe pastorale. Éric, vous vouliez faire des annoncés et nous dire quelle était cette pause musicale et pourquoi vous l'aviez choisie.
Oui, bien sûr. Il s'agit du fameux cantique des créatures de Francisco d'Assise, Saint François d'Assise, qui est le début de la poésie italienne et un grand moment de la poésie religieuse du monde entier. Et juste les trois premiers vers, « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement mes chers frères soleil, par qui tu nous donnes le jour. »
Alors, vous voulez dire, allez, dites-le en italien.
Laudato si, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale giorno, et illumini noi per lui, et ello è bello, radiante, con grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. C'est de l'italien archaïque, un peu ombrien, le commencement de la littérature italienne.
En tout cas, Laudato si, je pense que beaucoup ont compris ce que c'était.
C'était Angelo Branduardi.
Alors, cette mission catholique italienne, vous me disiez, Don Dominato, qu'elle a connu son heure de gloire, mais qu'elle continuait d'exister. Vous n'avez plus de paroisse. Voilà. En quoi consiste votre rôle de prêtre dans une communauté qui est peut-être aujourd'hui moins nombreuse, on imagine peut-être moins pieuse qu'elle ne le fut à une époque, comme l'ensemble de la société française. Comment essayez-vous d'accompagner et quel est votre rôle?
Alors, je pense que la mission italienne, elle vit une grande mutation, comme l'Église, qu'aujourd'hui, donc, elle est présente autrement. Ce qu'il y a de très beau dans cette mission italienne, c'est qu'elle a été pas une part de l'Église, elle a été Église, on a voulu être vraiment Église, et que beaucoup de ceux qui ont été formés dans cette mission italienne sont dans les paroisses. Dans ma paroisse, elle est animée par des dames italiennes qui assurent l'accueil, qui assurent la catéchèse. Je crois que ça, c'est un côté très positif, que les Italiens sont présents dans leur paroisse et ils sont engagés dans leur paroisse, dans la pastorale.
Alors, Domenico Zago.
L'esprit de la pastorale de la mission italienne mérite d'être précisé. En aucun cas, le travail de la mission est un travail identitaire du tout. dès le commencement, sa politique, sa pastorale était de favoriser l'intégration dans la population. Ne pas être un groupe identitaire. Et même maintenant, la mission catholique italienne, à part le fait qu'elle s'exprime dans le culte en italien, qu'elle va à la rencontre des personnes de langue et de souche italienne, eh bien, elle a comme but non pas d'avoir des cesses structures à elle, des actions à elle, à part la festa dell'amicizia, qui est annuelle. Elle a un but d'accompagnement, c'est-à-dire, le Sud-Ouest, et en particulier la région de Toulouse, a des dizaines d'associations de culture, d'amitié franco-italienne. La mission ne se situe pas en remplacement, elle se situe en accompagnement. Quand on a besoin d'elle, on fait appel soit aux missionnaires, soit aux différents acteurs, par exemple pour la fête des anciens combattants. Eh bien, la mission italienne est présente avec sa spécificité.
Alors,
elle n'a pas d'activité.
On a compris donc que vous étiez, on va dire, aujourd'hui une base arrière, ce qui veut dire que quelque part la mission est réussie puisque les Italiens maintenant se sont, on va dire, fondus dans la population française et entre autres dans ces communautés chrétiennes.
On peut dire parfaitement.
Don Dominato, est-ce que vous faites face comme prêtre dans votre communauté, tout comme aujourd'hui nombre de prêtres, à une forme de déchristianisation? Le pape Benoît XVI parle de lente apostasie de l'Europe. Comment est-ce que vous y prenez pour essayer de sensibiliser les jeunes générations, pour essayer de continuer à leur annoncer un Christ qui est vivant?
Je pense que par nos parents, la communauté, on a des bases solides. Des bases solides, on a été quand même profondément instruits, enseignés par nos parents, une foi solide, éclairée. Et puis nous sommes dans un monde nouveau, par le travail, on est présent dans ce monde. Et pour moi aujourd'hui, on vit une nouvelle Pentecôte, un monde tout à fait nouveau pour tout le monde, mais nous sommes présents. Avec ce qui nous fait vivre. Avec
Donc, vous voulez dire que les jeunes générations, chez vous, elles sont beaucoup plus pratiquantes que dans la société française? Qu'est-ce que vous entendez par une nouvelle Pentecôte, alors, c'est dans votre
communauté? Non, je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde qui est autre, un monde nouveau, et bien nous sommes présents en tant que chrétiens, en tant que, avec notre histoire d'immigrés, mais nous sommes présents aussi avec notre foi, et nous animons des communautés, nous accueillons, et nous essayons de transmettre une foi à ce monde d'aujourd'hui.
Ça, j'ai compris, Don Dominato, mais ma question précise, c'était les jeunes générations chez vous, est-ce qu'elles sont comme le reste de la société française, de moins en moins pratiquantes?
Non, il y a un décrochage, mais c'est normal. Les jeunes sont très attachés à la culture, à l'histoire de leurs parents. Ils sont fiers d'être italiens, beaucoup suivent des cours d'italien parce que c'est leur histoire. Je crois que ça, c'est très positif. Ensuite, ils ont, disons, d'autres lieux de rencontre. Mais, je veux dire, ils ont reçu beaucoup et ils continuent. Moi, je vois des familles, ils transmettent vraiment la foi à leurs enfants, ils sont engagés, mais ils sont peu nombreux, mais c'est peut-être l'histoire d'aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, donc, vous avez une messe mensuelle qui est une messe en italien, vous avez cette réunion annuelle donc, qui est la fête de l'amitié, en italien, comme on dit, festa dell'amicizia.
Festa dell'amicizia.
Voilà, et puis après, donc, de multiples services pastoraux, visites aux malades, vous accompagnez à l'occasion des grandes fêtes, mariages, enterrements, cousinades. Dans le fond, c'est quoi en fait? Vous avez la mission catholique italienne et votre rôle, c'est d'accompagner tout simplement, on va dire, vie de ces familles et puis d'essayer de faire en sorte qu'on ne passe pas du religieux au culturel.
Oui, il y a une histoire, il y a une mémoire. Je pense que nous sommes présents aussi parce qu'il y a une attente chez les gens. Ils aiment que ces fêtes soient célébrées aussi dans la tradition, dans la culture italienne. Bon, je vois que on nous invite, pour eux c'est une certaine joie, une fierté de savoir que le prêtre, la mission italienne est présente dans certaines fêtes. On nous invite pour des jumelages, des cousinades, surtout pour accompagner les anciens, pour recevoir le sacrement des malades, et pour vraiment ils tiennent à ce qu'on soit là. Je crois qu'on a un rôle très important auprès de toutes ces personnes.
Alors, cette communauté aussi essaye d'être présente à, on va dire, à de multiples situations de détresse. Je vous laisserai en reparler, Don Dominato. J'ai cru comprendre qu'il y avait donc vous ou des membres de la communauté qui participiez entre autres au fameux cercle de silence. Vous étiez en lien avec la CIMAT pour accompagner les personnes migrantes. Mais il y a une association chez vous qui tient une place un peu particulière. C'est donc un bol de 2000, Franck Fogliata, dont on parle régulièrement, semble-t-il, dans la revue de votre communauté, qui s'appelle L'Écho. Racontez-nous un peu la genèse de cette histoire, de cette association qui parle de l'histoire de la communauté italienne. Franck Fogliata, qu'est-ce que c'est que Bol 2000 et comment en avez-vous eu l'idée ?
Le Bol 2000, c'est une association qui existe depuis 25 ans. L'idée m'est venue en 1956, lorsque j'étais petit séminariste à Toulouse.
Donc c'était l'époque où il y avait des petits séminaires.
Il y avait Monseigneur Saliège.
Vous dites que donc vous aviez connu Monseigneur Saliège ou Monseigneur Garonne, qui venait régulièrement avec un père missionnaire blanc, voilà. C'est ça ?
Et là, il était comme un père missionnaire blanc. Et lorsque Monseigneur Saliège est parti, le missionnaire blanc nous a fait voir une caricature des premiers missionnaires qui ont évangélisé l'Afrique de l'Ouest en 1880 et qui avaient été assassinés. Et dans cette caricature, on voit un missionnaire semblant cuire dans une marmite. Ça, c'était un dessin. Et cette image...
On dirait presque du Tintin, en l'occurrence, mais c'est...
Comment ?
Non, allez-y, continue.
Et cette image ne m'a jamais quitté. Mais ensuite, j'ai pris ma vie de...
Donc, vous n'êtes pas rentré au grand séminaire ?
Non, je n'ai pas rentré au grand séminaire.
Vous êtes marié ?
Je me suis marié.
À une Italienne ?
J'ai monté une entreprise de menuiserie. Et puis, l'année 1995, je me trouvais envoyé en vacances en Corse. Puis là, je suis parti seul dans un bois. Et là, j'ai cru entendre une voix qui m'a dit « Les jeunes maliens t'appellent ». Donc, j'en ai parlé à ma femme lorsqu'elle m'a retrouvé. Je lui ai dit, voilà, je viens d'avoir un appel, il faut partir. Elle m'a dit, je te suis.
Alors, depuis cet appel, cette association s'est largement développée. C'est assez impressionnant. Vous me disiez donc qu'aujourd'hui, grâce à un Bol 2000, à la générosité de nombreux donateurs, vous aviez pu construire 4 écoles, 3 dispensaires, un hôpital qui avait 40 hectares de terrain qui était cultivé en maraîchage. Quel est le but, en fait ? Le but, c'est, si j'ai bien compris, c'est que comme les Italiens ont immigré en masse, vous citiez 27 millions d'Italiens, c'est ça ? Domenico Zago ?
En un siècle ? En 120 ans, il y a eu 27 millions d'émigrés.
27 millions d'émigrés ?
Qui ont quitté l'Italie.
Donc ça vous rend sensible...
Dans le monde.
Ça vous rend sensible à la situation des migrants, on en parlera dans quelques instants. Et vous aussi, votre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'ils aient des raisons de rester chez eux. C'est bien ça, Franck Fogliata ?
Notre but, avec ma femme, parce que le bureau est composé de ma femme, ma fille et moi-même, notre but, c'est de les aider chez eux pour éviter l'exode. Et pour les aider, parce que c'est un pays qui est relativement pauvre, où nous y avons été 17 fois, et l'entente entre musulmans, animistes et chrétiens, il n'y a que 2,5% de chrétiens au Mali. L'entente était extraordinaire.
Essentiellement musulmans, donc.
Et depuis 25 ans que nous avons pu y aller, là, malheureusement, nous n'y allons plus depuis 2012, trop de sécurité, mais... Nous avons sur place 2 prêtres, deux diocèses et 3 groupes de religieuses qui nous gèrent tous les travaux. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien, puisque le dernier dispensaire, financé par une famille italienne, la famille Furlan de Bessières, ils sont décédés tous les deux, il a été triplé grâce à la conférence épiscopale italienne. Et ces temps-ci, nous avons pu financer des pompes à eau, des moulins à grains et des élevages de poissons.
Domenico Zago, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette attention de la communauté italienne ? On y viendra à travers l'exemple peut-être d'une association ou d'une chorale qui travaille à faire comprendre en fait aux Français ce qu'est, on va dire, la réalité de la migration. Peut-être que les Français ont moins émigré et du coup ils sont moins sensibles à cela, en tout cas une partie d'entre eux. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour la mission catholique italienne de soutenir des associations comme un Bol 2000 ?
Ce que nous avons, être chrétien, ça veut dire partager ce que nous avons reçu. Nous avons reçu un accueil, nous avons, la communauté italienne a trouvé en France et dans le monde une façon de se développer et de s'établir. Eh bien, avec le passage du temps, avec l'inversion des flux migratoires, il est normal que nous participions. Et par exemple, ce qui est intéressant dans ce qu'a créé Rocco Femmia avec le groupe Incanto.
On y parlera plus tard, oui.
Avec le titre « Les émigrés, à ce moment-là, c'était nous ». Eh bien, c'est normal que maintenant, si nous avons la possibilité, les ressources, elles sont bien petites. Nous participions aux urgences dans le monde. Haïti, par exemple, ou Madagascar, une nouvelle mission en pleine brousse de Madagascar, nous l'avons aidée. Voilà. Et c'est normal, ce retour. Ce que nous ne comprenons pas, c'est le mouvement de xénophobie qui s'est déclenché en Italie. Pays d'émigration par excellence. Pourquoi, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, et surtout les années récentes, y a-t-il eu ce mouvement xénophobe, appelons-le par le terme, qui a choqué même Pape François?
Don Dominato, vous vouliez ajouter un mot sur ce sujet?
Il y a une autre association, Merville, qui travaille avec le Burkina Faso. C'est Laurent Tofanello, en tant qu'ingénieur, a passé 14 ans au Tchad et au Burkina Faso. Et donc, il travaille dans le même esprit que Frank Foliata. Il rencontre, il rend visite, enfin, il aide ce pays à s'en sortir sur place. Voilà.
Est-ce que vous pouvez dire un mot aussi de votre participation, donc, enfin, du soutien de la mission catholique italienne aux migrants ici à Toulouse? Elric Fabre-Meignier me disait que vous aviez l'habitude de travailler avec la CIMAT, que vous étiez présent à l'occasion des cercles de silence, vous ou d'autres membres de la communauté. Donc c'est le cercle de silence, et donc pour rappel, ça a été lancé par des franciscains à Toulouse, oui. Maintenant ça existe un peu partout en France et dans des pays francophones.
J'y vais régulièrement.
Pour manifester contre les centres de rétention.
Oui. Oui, j'y vais régulièrement. Ils font un très bon travail, c'est admirable. Il y a le cercle des voisins en Cornebarieux qui sont là, qui accueillent ceux qui sortent en pleine nuit, les accueillent, donc ils ne sont pas abandonnés. Puis ensuite, c'est une façon de sensibiliser que le migrant, celui qui doit revenir chez lui, est un être humain et qu'on doit le respecter. Il a des droits, il faut qu'il puisse faire entendre ses droits. Après, je fais partie aussi d'un collectif des sans-papiers. Voilà.
C'est-à-dire, vous participez à des collectifs de sans-papiers?
Oui.
ou d'autres membres de la communauté le font aussi?
Oui, il y a des Italiens, enfin, il y a des gens qui sont issus de l'immigration.
Dominique Ouzagou, rapidement, avant qu'on fasse une...
Je voulais souligner un aspect, c'est que la mission, de la raison d'être de la mission italienne, même si nous sentons qu'elle est en fin de course, c'est qu'il y a 1,5 million de jeunes Italiens diplômés qui sont à l'étranger. Et nous avons fréquemment, à Toulouse, des jeunes qui arrivent, soit à Airbus, soit dans les entreprises. Il y a 2 mois, nous avons trouvé le logement d'une jeune Italienne qui venait faire des études à l'Institut catholique de Toulouse. Et donc, nous sommes un point de référence à qui on fait appel pour des prestations ponctuelles. Et nous sommes toujours en lien avec les organismes italiens et surtout avec la bonne demi-douzaine de missions catholiques de France. Animé par Don Sant Ferruccio, Don Ferruccio Sant, qui coordonne l'action de cette dizaine de communautés de missions catholiques italiennes survivantes en France.
Donc, survivantes, vous voyez que ne l'enterrez pas trop vite, Dominique Ouzagou. On va faire une deuxième pause musicale. Rendez-vous est donné pour tous ceux qui voudraient faire connaissance avec la mission catholique italienne. C'est le 1er mars à Montrabé. Donc, c'est en Haute-Garonne, messe à 11h. Après repas, vous serez accueillis avec chaleur. Et puis, mon petit doigt m'a dit que la communauté avait besoin de soutien pour travailler à la restauration de cette chapelle de la mission catholique italienne à Toulouse, Notre-Dame de Nazareth. On fait une pause et on va vous retrouver pour parler de la Befana. La Befana, c'est donc une grande tradition italienne autour de la fête de l'Épiphanie. Les Italiens ne font pas les choses comme les autres.
Madre de Deus, ora encerrado. Madre de Deus, ora por nós, teu fies ahora.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coup de projecteur sur la mission italienne de Toulouse, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, autour du plateau, il y a du monde, des hommes. Mario Daminato, vous êtes prêtre responsable de cette mission catholique italienne, et puis d'autres membres de l'équipe d'animation pastorale, professeurs, responsables d'associations, ou anciens charpentiers et producteurs d'émissions de radio, Domenico Zago, Franco Fogliata et Eric Fabre-Meignier. On s'est dit donc qu'on allait parler de la Befana. Alors je vous propose qu'on commence tout simplement par écouter un reportage. C'est un reportage de France 2, ça posera un peu le décor. On n'a pas l'image, mais au moins ça va nous mettre dans l'ambiance et vous nous parlerez un petit peu de cette fête.
Sur toutes les places d'Italie, chaque année, au prix d'un exercice périlleux, elle fait le bonheur des petits. La Befana, cette gentille sorcière, distribue depuis des siècles des sucreries aux enfants sages. Dans la péninsule, elle est presque plus populaire que le Père Noël. Le jour de l'Épiphanie, donc, elle apparaît partout, comme ici, Piazza Navona, dans le centre de Rome, où elle pointe le bout de son balai.
Tu as été sage, toi ? Tu as été sage ? Non, alors pas de bonbons, mais du charbon.
La Befana, c'est une vieille dame qui, pendant la nuit, apporte des bonbons dans les chaussettes des enfants sages. Elle vole !
Parfois, j'apporte aussi du charbon, et donc tout le monde ne m'aime pas. Je suis une pauvre petite vieille.
Excusez-moi, maintenant je dois aller, je dois voler.
La légende veut que la Befana ait rencontré les rois mages et qu'il lui ait proposé de les suivre jusqu'à la crèche. Mais elle aurait refusé avant de le regretter amèrement. Et c'est parce qu'elle n'a jamais pu donner de cadeau à l'enfant Jésus que le 6 janvier, elle distribue des bonbons à tous les petits Italiens. À Venise, on confectionne même chaque année une chaussette géante pleine de sucreries que l'on suspend au-dessus du Grand Canal pendant que des Befana, un peu masculines tout de même, se lancent dans une régate endiablée devant une foule survoltée. En Italie, les traditions n'ont rien perdu de leur popularité.
Voilà pour la Befana et ce reportage donc qui avait été donné par France 2. Est-ce qu'en Italie c'est toujours une tradition ? C'est quand même une figure, on va dire, un peu ambiguë, cette sorcière, puisque j'ai vu que à la fois c'est comme si elle se rattrapait de ne pas avoir suivi les mages, qu'elle honorait les enfants, elle distribue même des sortes de chapelets, ai-je vu, avec pour les Ave Maria des châtaignes et des pommes pour les Notre Père, et puis après on a l'habitude pourtant de la brûler, la Befana. Domenico Zago, dites-nous un mot complémentaire de cette figure qu'est donc la Befana, vous me disiez.
Oui, la Befana, c'est une figure complexe, en pleine perte de vitesse, parce que la figure qui est vraiment célébrée maintenant, globalement, c'est Babbo Natale.
Vous nous en direz un mot, mais ne torpillez pas tout de suite le sujet dont on parle, et dites-nous un mot complémentaire à propos de cette Befana.
Eh bien, c'est un personnage ambigu, una strega benefica, strega maléfique, benefica, c'est une antiphrase, vous voyez.
Alors c'est quoi, c'est la figure de la vie de notre âme, c'est ça ou c'est...
Et on la rend, comment dirais-je, coupable, à la fois, responsable, à la fois des récompenses et des punitions des enfants. Si l'enfant est sage, la Befana lui apporte des cadeaux. S'il n'a pas été sage, un morceau de charbon.
Alors, cette nouvelle tradition...
Mais, attention, ces morceaux de charbon, l'enfant pleure. C'est du chocolat noir. Voilà. Donc, on lui dit « goûte » à l'enfant, et là, il se console.
Décidément, c'est la comédia dell'arte, on ne sait plus s'il faut rire ou pleurer.
Voilà.
Alors, dites-nous un mot de la nouvelle tradition dont vous étiez en train de parler. Qu'est-ce qui aurait remplacé la Befana ?
Il Babbo Natale. Alors, c'est la laïcisation, c'est le Père Noël, qui s'impose, comme dans tous les pays européens. Voilà.
Quelle tristesse, même en Italie, les traditions se perdent et le Père Noël,
tout à fait.
Le Père Noël nous apporte du Coca-Cola à Noël. Pour finir cette émission, vous voulez insister sur on va dire, toutes les associations, toute la vie culturelle que soutient la mission catholique italienne. Éric Fabre-Meynier, vous êtes versé dans ce domaine, puisque vous êtes vous-même artiste ou accompagné des artistes. Que faut-il dire de ce rayonnement entre autres, peut-être, on peut à cette occasion parler des jumelages. C'est une manière de faire rayonner la culture italienne ou l'Italie en France.
Absolument. Alors, il y a de très nombreux comités de jumelage. Bon, on peut en citer celui de Pengiustare avec Cardignano dans la province de Trévise. Chez toi aussi, Franck, je crois qu'il y en a un. Comité... Non ? Alors, c'est toi qui m'en parlais.
Castelginest, Aucamville, Saint-Alban, l'Union.
Avec des villes d'Italie.
Bressol.
Où il y a des échanges très alors, nombreux.
Alors, ça, c'est pour le jumelage. Pour les associations culturelles, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Quelles sont les grandes associations
Alors, il y a des associations, d'une part, qui donnent des cours d'italien.
Les Dante Alighieri.
C'est très important. Il y a la Dante Alighieri, la Machiavelli, l'Italie à Toulouse, l'Alliance franco-italienne. On ne peut pas toutes les citer, mais ça, c'est Damiano Amuret. C'est très important que la langue italienne continue à être pratiquée, puis c'est un enrichissement pour nous, Européens, on sait.
Allez, on va finir par la langue italienne. Dites-nous quelques mots du Notre Père en italien, comme ça on finira sur une touche spirituelle, Don Mario Damiato.
Le Notre Père en italien.
Allez-y, quelques mots au moins.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Non abbandonarci, perché ha sostituito... l'expression voilà, non indulgente.
Vous n'étiez pas en direct de Radio Vatican, ce n'était pas le pape François, c'est bien la mission catholique italienne. Rendez-vous est donné, donc pour ceux qui voudraient faire davantage connaissance avec cette mission catholique italienne, c'est le 1er mars à Mont-Rabé, messe à 11h, puis repas fraternel. S'il en est un grand merci à vous d'être venu ce matin nous parler de cette tranche d'histoire. Voilà, rendez-vous est donné peut-être à une prochaine fois. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.